Bonjour, je m'appelle Cécile Vou, je suis radiologue en libéral et je préside un petit collectif qui défend l'information loyale, neutre et objective des femmes en matière de dépistage du cancer du sein. Donc là, vous voyez en arrière-fond, c'était la couverture de notre brochure que nous avons publiée en 2016, dépistage du cancer du sein, une décision qui appartient aux femmes. Encore faut-il qu'elles soient informées. Donc je vais vous parler en général des études de non-infériorité qui sont entrées à la mode dans le monde médical en ce moment et de l'étude européenne MyPEPS qui porte sur un dépistage individualisé du cancer du sein, le dépistage de masse ayant failli, notamment en réduction significative de mortalité et en réduction du taux des cancers graves. Alors qu'est-ce que c'est qu'un essai de non-infériorité? Eh bien ça vise à comparer deux choses, donc un dispositif médical, un procédé ou un médicament, pour vérifier si cette chose, le dispositif, le procédé ou le traitement testé, ne serait pas moins bon que celui qui est en usage, en tolérant une certaine perte d'efficacité à hauteur d'une certaine marge, d'une certaine limite tolérable, qu'on appelle le seuil de non-infériorité. Pour le patient, il faut absolument qu'il y ait une compensation positive de cette autre chose. Il faut qu'il y ait des avantages cliniques en termes d'effets indésirables réduits, ou en termes de diminution de la lourdeur des traitements, il faut qu'il y ait des avantages pratiques ou des avantages sociaux en termes d'accès aux soins ou encore des avantages économiques. Donc les essais de non-infériorité, on les utilise dans le cas où une intervention donnée est reconnue efficace mais toxique, avec des toxicités importantes. Et on voudrait démontrer que la nouvelle intervention alternative, donc celle qui va être testée, est au moins aussi efficace mais avec une diminution de ces toxicités. Alors, un schéma pour comprendre. Donc, voilà, les deux choses qu'on veut comparer. Vous avez ici, au niveau de l'efficacité du comparateur, la grosse flèche. Quand vous descendez vers la gauche, vous avez moins d'efficacité. Quand vous allez vers la droite, vous avez plus d'efficacité. La chose testée, le traitement, le dépistage testé, se situe à la barre à gauche. Et vous voyez que ce qui le sépare de l'efficacité du comparateur, la parenthèse, c'est ça, le seuil de perte d'efficacité accepté. Et donc la barre bleue à gauche, c'est le seuil de non-infériorité toléré. Diapo suivante. Parce que pour les statisticiens, ce qu'il faut bien comprendre, A non inférieur à B, ça ne veut pas dire que A est équivalent à B. A non inférieur à B, ça signifie que A peut être inférieur à B, mais que cette infériorité ne dépasse pas un certain seuil, une certaine limite. Dans le cas de MyPEPS, mais je vais y revenir, ce seuil de non-infériorité a été fixé arbitrairement à moins 25%. Alors, pour comprendre la non-infériorité, il faut savoir que les résultats d'un essai sont empreints d'une variabilité aléatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous recommencez l'étude avec un autre échantillon, vous allez trouver un autre résultat. Donc les statisticiens ne savent pas dire la vérité, elle est dans le résultat. Mais ils savent calculer une plage de part et d'autre du résultat qui a 95% de chances de contenir cette vérité. C'est ce qu'on appelle un intervalle de confiance. Pour que la non-infériorité au seuil arbitrairement choisi soit considérée comme effective, il suffit juste que la borne basse de l'intervalle de confiance à 95% soit supérieure au seuil choisi. Alors, je vous ai fait des petits schémas pour mieux comprendre. Donc on a le schéma de tout à l'heure, l'efficacité du comparateur, le seuil de non-infériorité et donc la petite croix symbolise le résultat qu'on a obtenu. Vous prenez la barre tout en haut à droite. Vous voyez qu'on a certainement une supériorité. Pourquoi? Parce que la borne basse de l'intervalle de confiance ainsi que la borne haute sont au-delà de l'efficacité du comparateur. Tout à fait en bas, vous avez une infériorité quasi évidente. La borne basse, elle est en deçà du seuil de non-infériorité. Mais pour les deux barres intermédiaires, les deux situations intermédiaires, vous voyez que c'est quand même fort douteux. Vous avez un résultat, la borne basse de notre intervalle de confiance, elle est bien au-dessus, au-delà du seuil de non-infériorité, mais quand même, votre bon sens vous dit bien que c'est quand même inférieur puisqu'on n'atteint pas l'efficacité du comparateur. Mais l'étude pourra quand même dire, nous sommes dans un cadre de non-infériorité et l'étude est quand même un succès puisque la borne basse est au-delà du seuil. Voilà ce qui se passe. Donc, l'éthique de la non-infériorité, il faut qu'il y ait une compensation positive. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le patient, il faut qu'elle soit clinique, moins d'effets indésirables, diminution de la lourdeur des traitements, il faut qu'elle soit pratique, un meilleur accès aux soins ou économique. Donc, les conditions de la non-infériorité doivent être explicites. La compensation positive doit profiter au patient. Elle doit être réelle et pas supposée. Et elle doit être vérifiée dans l'essai. De même, la détermination du seuil. La détermination du seuil ne devrait pas être arbitraire ou statistique. Ça devrait être quelque chose de clinique et qui soit proche de la signification clinique. Ou alors répondre à un effet de trade-off, c'est-à-dire un compromis. Donc la diminution ou la perte de la qualité ou la perte de quantité ou de propriété de ce qu'on va mettre en œuvre se fait en contrepartie de gains dans d'autres aspects. Donc si on a une moindre efficacité du nouveau traitement ou du nouveau dispositif qu'on veut mettre en œuvre, il faut qu'il y ait un gain pour le patient de l'autre côté. Donc là aussi, les conditions, il faut que ça soit explicite, il faut que ce seuil viennent de l'avis de cliniciens extérieurs et qu'on prenne aussi l'avis des patients. Ce qu'il faut vérifier donc systématiquement lorsqu'on a affaire à une étude de non-infériorité, est-ce qu'elle est éthique ? Pourquoi on choisit un essai de non-infériorité ? Pourquoi pas un essai de supériorité ? Pourquoi on a déterminé tel critère de jugement ? Quels sont les avantages compensatoires pour le patient et pourquoi on a choisi ce seuil de non-infériorité. Et dans le protocole d'une étude, vous avez toujours ce qu'on appelle le rationnel qui doit être publié. Et dans le rationnel de l'étude, ces éléments doivent être justifiés. Diapo suivante. Alors, maintenant, je vous présente donc MyPEPS, qui est un essai clinique randomisé. C'est un acronyme pour My Personal Breast Screening, donc mon dépistage personnalisé du cancer du sein. Ce qu'on veut, c'est évaluer l'intérêt d'un dépistage individualisé en fonction du risque de chaque femme de développer au cours de sa vie un cancer du sein. L'étude va se faire sur 6 ans, 2 ans de recrutement et 4 années d'études effectives, et on espère recruter entre 80 et 90 000 femmes âgées entre 40 et 70 ans. Donc 5 pays sont parties prenantes. En Italie, on espère recruter 30 000 femmes. En France, 20 000. En Israël, 20 000. Belgique et Royaume-Uni, 10 000. Le critère, c'est le nombre de cancers de stade 2 et plus. Donc le dépistage, son but, c'est quand même de diminuer le nombre de cancers graves. C'est ça quand même le but d'un dépistage. Il faut bien avoir ça à l'esprit. Donc, les femmes sont attribuées de façon randomisée dans deux groupes. Le premier groupe, elles suivront le dépistage standard tel qu'actuellement pratiqué dans chacun des pays, en sachant que chaque pays a ses propres recommandations. Elles ne sont pas équivalentes d'un pays à l'autre. Et dans le deuxième groupe, dit de dépistage individualisé, ces femmes seront réparties en quatre catégories de risque de développer un cancer du sein. Donc, il y aura les femmes à bas risque, les femmes à risque moyen, à haut risque et à très haut risque. Et ce risque, il est calculé, c'est un score qui va être attribué, il est calculé en fonction de 5 critères, l'âge, les antécédents personnels et familiaux, la densité des seins, un test salivaire pour un génotypage et les antécédents de biopsie, même bénigne. Donc si la femme a eu un antécédent de biopsie mammaire, même bénin, elle est déjà dans une catégorie dite à risque. Quels sont donc les objectifs de MyPEPS ? Ben voilà, c'est ça, c'est de vérifier qu'avec un dépistage individualisé, le taux de cancer avancé n'est pas plus élevé que le taux qu'on trouve dans le dépistage standard avec un seuil fixé arbitrairement de moins de 25%. C'est très compliqué, donc il faut qu'il y ait moins de 25% de cancer grave en plus pour parler d'une non-infériorité, c'est ça que ça veut dire, hein, faut vraiment bien comprendre. Donc, concrètement, le protocole dit, on attend dans le groupe dépistage standard une incidence cumulée sur 4 années de 480 tumeurs de stade avancé pour 100 000 femmes. Donc, ce que ça veut dire, si vous tolérez jusqu'à 25% de cancer grave en plus, ça veut dire que si pour le groupe dépistage individualisé, l'incidence cumulée sera de 600 tumeurs de haut stade pour 100 000 femmes, l'étude sera décrétée un succès. Alors, je vous illustre ça. Donc, ça a l'air compliqué, ça n'est pas. C'est un petit peu la même chose que le schéma de tout à l'heure. Vous voyez la situation tout en bas, l'éventualité 6. Là, vous voyez, donc la barre rouge symbolise l'intervalle de confiance. Et donc, les deux bornes sont au-dessus du zéro, donc du taux du comparateur, donc vous savez qu'il y a supériorité.
Non. Non. Vous ne savez pas qu'il y a supériorité, puisque l'essai a été construit comme un essai de non-infériorité.
Donc vous n'avez
pas
conclu.
Non, vous ne pouvez pas prouver ça. L'essai n'est pas construit pour ça. L'essai n'est pas construit pour la supériorité.
Oui, mais c'est ce qu'ils font en règle générale. Dans les essais,
on laisse poursuivre.
On ne fait pas de débat maintenant.
Non, on laisse
ton intervention pour après.
Cécile, poursuit.
Cécile, tu poursuis.
Alors, donc, quand vous prenez l'éventualité numéro 1, tout en haut, là, vous êtes sûr qu'il y a infériorité. Il y a infériorité certaine, la borne basse, et en dessous du seuil de non-infériorité, il y a infériorité. Mais vous voyez que pour les situations intermédiaires, l'éventualité 2, 3 et 4, c'est surtout 2 et 3, c'est quand même très douteux. Vous avez la borne haute qui est en dessous du comparateur ou légèrement au-dessus, mais comme la borne basse de votre intervalle de confiance est au-dessus du seuil de 25%, vous pouvez conclure à une non-infériorité. Alors que la situation 2, votre bon sens vous dit qu'il y a certainement une infériorité quand même, puisqu'on n'atteint pas le comparateur. Mais l'étude pourra conclure à une non-infériorité. Diapo suivante. Alors, les autres problèmes que pose MyPEPS, et pas des moindres, c'est que, donc on a deux bras comparateurs, mais on n'a pas deux bras comparateurs sans dépistage. Or, si on veut vraiment pouvoir juger ce qui se passe, notamment en matière de surdiagnostic, là, ça sera, on fera le différentiel, hein, le surdiagnostic entre le dépistage standard et les groupes individualisés, mais on n'aura pas d'idée du surdiagnostic en termes absolus, pour les fausses alertes aussi, le nombre de biopsies inutiles, etc. Alors, la moindre des choses, c'est quand même qu'il y ait un bras vierge de tout dépistage, et c'est fortement possible, puisque 50% des femmes ne suivent pas le dépistage standard. Et je pense même avec une bonne information des femmes, on peut leur expliquer qu'on fait une étude et qu'on peut obtenir ça. La brochure d'information est complètement lacunaire, tendancieuse et trompeuse. Le surdiagnostic est minimisé, on allègue le chiffre de 10%. Moi, je veux bien qu'on allègue, qu'on mette en évidence qu'on donne aux femmes des chiffres d'estimation basse, mais il faut aussi, par honnêteté, donner les chiffres des estimations hautes, des dernières études sur le dépistage qui allèguent jusqu'à entre 30 et 50% quand même de surdiagnostic. Donc, un cancer détecté sur deux, d'après l'étude d'Autier, serait quand même un surdiagnostic. Donc, il faut aussi dire ces chiffres-là. Le surtraitement n'est jamais expliqué. Or, le surtraitement, c'est quand même la concrétisation, c'est la matérialisation pour les femmes du surdiagnostic. Quand vous dites aux femmes qu'il y a un risque de surdiagnostic, oh oui, bon, ça reste quand même très abstrait quand vous lui dites c'est une mutilation, c'est une mastectomie en plus, c'est une irradiation avec un risque de coronarite radique ou de cancer radio-induit. C'est déjà autre chose quand vous lui dites qu'il y a des accidents cardiovasculaires dus aux chimiothérapies et aux hormonothérapies. Là, ça devient, dans son esprit, un peu plus concret. Il y aura donc un enrôlement dans l'étude de femmes de 40 ans, alors qu'on sait quand même que la balance bénéfice-risque et penche largement en faveur des risques pour cette tranche d'âge. Et quand on vous parle de désescalade des mammographies, pas du tout, certaines femmes auront davantage de mammographies, puisque les femmes dites à haut risque et à très haut risque auront une mammographie annuelle. Et dans les centres qui y sont équipés, il y aura ce qu'on appelle la tomosynthèse, qui est une technologie de mammographie en trois dimensions, qui est particulièrement irradiante et qui a toujours pas... Une note de la HAS qui vient de sortir là, il y a deux jours et qui ne le valide toujours pas dans le dépistage organisé du cancer du sein. Dans le rationnel, on ne trouve aucune justification de la non-infériorité. Le logiciel de prédiction du risque qui s'appelle MAMORISC n'a aucune validation scientifique. Enfin, elle est très douteuse. C'est-à-dire qu'il y a une étude, mais qui est faite par le directeur commercial de MAMORISC. Et qui est faite aussi par Madame Suzette Delaloge, qui est l'instigatrice de l'étude. Ensuite, il y a une autre étude qui est une étude de satisfaction pour demander aux femmes si elles sont satisfaites, si le logiciel il est bien. Bon, une étude de satisfaction, ce n'est pas une étude d'efficacité. Et quid de la radioprotection des femmes à haut risque. Le groupe des femmes à très haut risque est dit équivalent aux mutations BCRA. On sait que les mutations en BCRA, la première mammographie, d'après les radiobiologistes, peut déjà être carcinogène. Donc comment justifie-t-on de faire une mammographie annuelle chez des femmes dont on sait qu'elles ont un surrisque par rapport au rayon X ? Alors, le rationnel de MyPEPS, donc la contribution de MyPEPS, ça sert à donner les nouvelles recommandations de l'Union européenne. En fait, de recommandations, cette étude se limitera à montrer que le dépistage individualisé et le dépistage standard ont une efficacité équivalente, quand on sait tout ce qu'on peut fourrer sous équivalent. On trouve cette phrase assez intéressante. Les essais de non-infériorité sont actuellement largement utilisés dans le cas où une intervention donnée est reconnue efficace, mais associée à des toxicités importantes, et qu'on veut démontrer que la nouvelle intervention alternative est au moins aussi efficace, mais moins toxique. On est bien d'accord avec cette définition, sauf que l'efficacité du dépistage standard actuellement n'est plus du tout aussi démontrée. Il y a même une grosse controverse mondiale scientifique. Et les toxicités ne seront pas diminuées. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on le lit dans le protocole. Chez les personnes à risque élevé, même si les méfaits du dépistage ne diminueront pas et peut-être même augmenteront, donc c'est quand même assumé, et la phrase continue, on espère quand même réduire le taux de cancer grave comme le montrent des études. Hors d'études, il n'y en a pas, ce sont des études en modélisation. Il n'y a aucune étude randomisée, nulle part, qui montre que davantage de dépistage réduirait le nombre de cancers graves. Il n'y en a pas. Donc, ce qu'on voit ensuite aussi dans le rationnel, à ce jour, les dommages supplémentaires et les bénéfices supplémentaires de l'utilisation de l'information sur les risques polygéniques afin d'adapter les stratégies de dépistage demeurent non testés et inconnus. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas où on va. Dernière diapo. Voilà, donc ça porte un nom, hein, cette chose-là, ça s'appelle le biocreep. C'est le fait de faire des essais de non-infériorité qui comparent des médicaments ou des dispositifs, parfois déjà non-inférieurs, et cela fait courir le risque d'avoir des médicaments inefficaces et qu'on va valider. Pour MyPEPS, le dispositif peut s'avérer tout à fait inutile pour réduire vraiment le taux de cancer grave, mais être recommandé parce qu'il ne semble pas favoriser un taux de cancer grave au-delà d'un seuil arbitraire de 25% de cancer grave toléré en plus et pas en moins. Et pour finir, donc une nouvelle procédure de santé peut être acceptée comme efficace, même si son effet thérapeutique ou bénéfique est légèrement inférieur à la norme actuelle. Pire encore, il est possible qu'une procédure inefficace ou nocive peut être déclarée fallacieusement efficace. Je vous remercie.